parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
En République démocratique du Congo, ils sont des milliers d'enfants à exercer différents métiers pour survivre. On est tout comme un casseur de pierre, ils sont dans les carrières de mines, ils travaillent comme cireur, vendeur ambulant, aide-maçon, pour ne citer que ces métiers-là. Beaucoup d'entre eux commencent parfois très tôt le travail pour finir tard, une situation qui met en péril leur éducation et sacrifie leur jeunesse. Comment faire pour mettre fin au travail des enfants? Norbert Lupiti, encore une fois, bonjour.
Merci, mon frère, bonjour.
Bien, vous êtes spécialiste de l'enfance marginalisée, vous intervenez depuis Lubumbashi. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'enfants travaillent?
La question que vous soulevez est vraiment complexe. Elle ne peut pas se laisser appréhender par une explication simpliste. Moi, je vais parler de la RDC et d'une catégorie d'enfants bien précise, c'est-à-dire les enfants qui sont présents dans les sites miniers. Mmh. Alors, pour revenir à votre grande question, vous allez voir d'abord, à travers le monde, que ce phénomène est vieux. Ce n'est pas l'apanage de la RDC, mais ce qui est vrai, c'est que partout où ce phénomène a été perçu, il a été lu comme un indice des conditions de vie médiocres, un indice de pauvreté. Mais maintenant, s'il faut retrouver une explication, on ne peut plus savante, vous allez voir que ce phénomène obéit à une explication plus ou moins large.
Laquelle?
Parmi les facteurs prioritaires, j'ai déjà parlé des conditions socio-économiques dans notre pays.
Oui.
Vous savez, depuis un certain temps, l'économie de la RDC chancelle, elle végète. Et la vie, beaucoup d'entreprises qui faisaient la fierté du pays, être fermées. Je parle de la Gécamine, je parle de la Réfé du Katanga, la Gécamine et les autres grandes sociétés. Alors, tout cela a fragilisé les familles. Au point où, beaucoup de responsables ont été rendus vulnérables face aux nombreux besoins de leurs enfants. Ça, c'est la première piste.
Oui.
Mais maintenant, par rapport aux enfants qui sont dans les sites miniers, parce que nous y avons mené des études et des recherches appuyées, vous allez voir qu'il y a un autre facteur très important non négligeable, c'est la logique capitaliste. Vous allez voir que dans les sites miniers, ceux qui détiennent des capitaux, ils fonctionnent avec la logique capitaliste qui consiste à minimiser les coûts et à maximiser le profit. Et les enfants sont considérés comme une main-d'œuvre docile et mal payés. Ça, c'est un deuxième facteur. Mais un troisième facteur aussi, vous allez voir que par-ci, par-là, il y a des mesures politiques ou sociopolitiques qui sont arrêtées pour essayer d'évacuer les enfants dans les sites miniers, mais ces mesures se révèlent inopérantes. Là, il y a un autre facteur qui intervient.
C'est lequel?
La complicité de structures sécuritaires. Appelés à gérer cette présence des enfants.
La complicité, vous voulez dire la complicité des services de l'État?
Oui, la complicité, la connivence des services de l'État. À votre renfort, si vous voulez, il y a par exemple l'ANR qui est présent, la police bénin est là, l'auditorat militaire est là, le bureau 2 est là, et même d'autres structures d'encadrement des exploitants, PIPMAC, SCAM. Mais vous verrez qu'au lieu de travailler pour l'efficacité des mesures arrêtées, quelque part, ils travaillent en connivence pour protéger même la présence des enfants.
Alors, on va poursuivre tout à l'heure, Norbert Lupiti, il est temps d'accueillir Christian Gabou, qui nous appelle de Pandroma, dans la province orientale. Christian, bonjour. Christian, vous êtes à Pandroma, bonjour.
Bonjour, j'ai dit passamment, bonjour à tous les jeunes, c'est pour le moment.
Mais nous parlons du travail des enfants, comment ils mettent fin, quelle est votre question?
Je voudrais tout juste demander l'avis de notre JC par rapport à ce thème. Ce que nous sommes en train de remarquer ici, beaucoup parfois, il faut des enfants mineurs, bien sûr, des enfants orphelins. Bon, il n'y a pas de membres de famille qui peuvent prendre ces enfants en charge. Alors, c'est pourquoi ils exercent certaines activités sur le marché. Bon, au lieu qu'on puisse prendre, l'État puisse prendre ces enfants en charge, l'État aussi les a abandonnés à eux-mêmes. Bon, maintenant que l'enfant a pris conscience de gagner sa vie avec certaines activités, bon, on fait circuler les tâches pour ces enfants et puis on quand même évolué quelques articles sur une tablette plus grande là. On leur donne aussi des tâches, une cassette. Bon, l'État, le service de l'État ne dit rien. Il ne dit rien à la fois parce que tu ne peux pas exercer ce travail. Alors, c'est pas se léviter à ce.
Voilà, merci. Norbert, Christian nous parle de ce qui se passe à Tandroma, beaucoup d'enfants qui se retrouvent, qui exercent des petits métiers, ils ont même des tables et les services de l'État sont là, mais c'est comme vous avez dit tout à l'heure, mais c'est, Norbert, il y a une certaine complicité au niveau des services de l'État.
Ok, l'intervention de mon ami de tout à l'heure, mais pousse droit vers la quatrième piste des facteurs causaux de ces phénomènes.
Oui.
C'est ce que moi j'appelle l'irréalisme des mesures officielles.
C'est-à-dire?
Vous savez, mon frère, il est bon de dire enfants, quittez les sites miniers, mais ils ont quitté pour aller où? C'est ça. En avant, on devait déjà monter des politiques sociales d'encadrement des enfants. Vous voyez? Et vous verrez même que le profil biographique de ces enfants diffère. Il y a des enfants, par exemple, qui sont tellement rongés par la crise au niveau de leur famille qu'ils refusent de mourir en genoux en famille. Alors ils se disent, il y a danger, bien entendu, dans les sites miniers, mais nous préférons mourir en travaillant. Et là, je crois que j'ai rejoint un peu la préoccupation de mon ami. Le problème est à saisir dans toute sa complexité. Là, vraiment, je déplore l'insuffisance des mesures et des politiques arrêtées. Il faut arrêter, interdire la présence des enfants, mais alors savoir bien les orienter.
Alors, oui. Alors, donc vous dites qu'il faut, si on n'arrive pas à interdire le travail des enfants, vous dites qu'il faut les encadrer, les orienter.
Bon, en fait, je voudrais dire que les éléments que j'avance sont fondés sur des recherches menées.
Oui.
Par rapport à la présence ou non des enfants, il y a deux opinions qui se concurrencent. Il y a des extrémistes qui pensent qu'il faut vraiment décréter, si vous voulez, l'opération enfant zéro dans les sites miniers. Cette option, à mon avis, me paraît peu réaliste. Parce que, pour dire de certains enfants, les faire partie des sites miniers, mais c'est précipiter leur mort.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Il y a une autre opinion, on ne peut plus nuancer, qui pense que les enfants peuvent être là, mais on examine très bien les conditions dans lesquelles ils fonctionnent. On examine un peu. Et puis quand on dit enfant, il y a enfant, il y a enfant de 4 ans, enfant de 5 ans, il y a enfant de 17 ans. Moi, je crois que,
généralement,
les solutionnistes, ils sont plus influencés par la philosophie juridique, on pense que la loi reste la loi, or la réalité montre que la loi, dans une certaine mesure, doit se laisser influencer par l'effet de la réalité.
Monsieur Norbert, vous estimez à combien le nombre d'enfants qui sont dans les sites miniers du Katanga?
Je ne saurais pas donner un chiffre exact, mais comme la réalité sociale bouge, sincèrement, je ne peux pas m'hazarder à quelque chose sur ces jeux des chiffres.
Des estimations, vous estimez à combien, par exemple?
Non. Ça, vraiment, c'est une question qu'il faut poser aux ONG.
Oui.
Mais ce qui est vrai, c'est que la réalité, la présence des enfants dans les sites miniers est une réalité palpable. Voilà comment je réponds à ta question.
Travail des enfants, comment y mettre fin? Nous avons des autres auditeurs en ligne. Jerry Nido est en ligne depuis Bandonville et Mavé qui s'imbique nous appelle des Kananga dans la province du Kasaï occidental.
Une minute, une fatigue et sans intérêt. Je suis Karine Gamingaya et je m'attelle à vous offrir le meilleur du week-end. Les potins d'État, les nouvelles de Radio Partenaire. Les clubs d'auditeurs de Radio Capi, vous, en direct à travers vos dédicaces sur Radio Capi. le 9-13 de Karine Galimbaya, ce samedi et dimanche, sur la radio de la paix.
Bien, nous allons retrouver, après donner la parole à Jérémy Daud, qui nous appelle de Bandondouville. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Kabi.
On vous écoute, Jérémy.
Bon, je ne sais pas, j'ai une préoccupation, je ne sais pas si l'invité peut m'éclairer à ces choses. On n'a pas, pas ce que je suis en train de l'attendre, il dit les gens, les enfants de Katanga. Ok, c'est pas partout au Katanga, donc c'est partout. Donc, comme ici, moi, à Bandondouville, si vous parcourez dans les marchés congolais ou bien dans nos marchés, donc vous trouverez toujours des petits enfants qui sont là en train de se vendre, voire même maïs ou bien quoi. Donc, si vous faites des petits tours, là, vous allez suivre. Non, on a arrêté un enfant là qui vient de se voler de l'argent dans les marchés. Parce que, bon, si vous demandez à l'enfant pourquoi vous avez volé, oh, comment on a le bâton, il fait peut-être un an, on a dit que c'est pas un an, c'est un an, c'est un an, c'est un an, c'est un an. Je ne sais pas, qu'est-ce que l'invité peut nous dire à ces propos-là.
Merci. Mavé Kisambika et Takananga, bonjour.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent partout à RDC à travers la radio de la paix.
On vous écoute, Mavé.
Merci, joli. Je voudrais poser une question à notre invité. Avant d'y arriver, moi, je voudrais faire voir comment ces enfants vraiment dans notre pays sont exploités d'une manière irrationnelle. Vous verrez, aujourd'hui dans notre étendue de pays, puis notamment dans notre province, vous trouverez dans les entreprises commerciales, le chef d'entreprise préfère mieux exploiter ou soit intégrer les enfants parce que c'est souvent eux, à travers ces enfants plutôt, qui peuvent bien gagner ou soit maximiser leur revenu, n'est-ce pas? Mais beaucoup d'autres, vous trouvez que, réellement, à coup de route, vous pensez que les enfants n'ont pas de parents, mais en principe, ce sont les enfants qui ont plus près qui ont vraiment de responsables directs dans leur ménage. Mm-hmm. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je voudrais demander à votre invité, quels sont les mécanismes par rapport à ce phénomène que l'État peut appliquer pour gérer ou soit pour une bonne gestion rationnelle des enfants sur le sol de notre pays. Vraiment, c'est déplorable. On peut mettre à faire cela. Les enfants ne sont pas vraiment destinés à faire des pareils travaux. Vraiment, c'est pénible. L'État a plutôt les invités sur place et nous donner des mécanismes que l'État peut appliquer rationnellement pour une bonne gestion de nos enfants dans notre pays.
Merci, Mavis. Jean-Claude, vous êtes à Issiro. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
On vous écoute.
Oui, vous savez, ici, en RDC, il y a le phénomène AFA, élève-parent. Il y a le phénomène élève-parent.
C'est un élément.
Maintenant, l'État veut interdire aux AFA de ne pas travailler. Ces AFA-là, eux-mêmes cherchent l'argent pour venir payer les études. Quand vous allez interdire, comment ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ouais. Par exemple, Jean-Claude, nous savons qu'à Kisangani, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui font des taux d'écart pour, dommage, mais qu'il y en a beaucoup d'enfants qui font des taux d'écart pour avoir un peu d'argent et se payer, leur minerva. Je ne sais pas si c'est la même situation à Issiro. Alors, Norbert Lupici, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Alors, merci beaucoup, mon frère, de l'opportunité que tu me donnes de répondre aux auditeurs. D'abord, je rejoins certainement leurs préoccupations pour reconnaître que, si je parle des enfants qui sont présents dans les sites miniers, c'est juste une option parce que c'est là qu'on a beaucoup plus travaillé. Mais le phénomène atteint pratiquement tous les secteurs de la vie. Hein. Mmh. Et là, je rejoins le premier intervenant qui parle des enfants, qui vendent des lots sur la tête, tout ça, tout ça. Mmh. Et toute cette situation, sur le plan éthique, est déplorable parce que l'enfant est considéré comme un être immature qui mérite protection et encadrement. Mais pour rejoindre le deuxième intervenant, qui constate aussi avec moi que ce phénomène atteint pratiquement tous les secteurs de la vie, il demande quels seraient les mécanismes à appliquer pour une bonne gestion de cette situation. Et moi, je pense que le premier mécanisme, c'est d'abord fomenter des recherches beaucoup plus solides. Généralement, nous avons tendance, chez nous, dans notre pays, à prendre des mesures qui n'ont aucun fondement empirique. Et je crois que là, nous devons nous ressaisir pour essayer de remettre les choses en ordre. Donc voilà les premiers mécanismes. Mmh. Maintenant, si on fomentait des études, vous verrez, comme je l'ai dit, que le profil de chaque enfant est tout à fait particulier. Hein? Vous verrez qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Les enfants dont les parents ont été tués en guerre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des mesures tout à fait appropriées. Et c'est pourquoi, vous allez voir, j'ai des gens de dernière personne qui parlent des élèves parents. Mmh. Donc la manière de traiter un élève parent. Nous, les trouvons aussi sur le Bumbashi, il vous dit, ma présence, c'est que je fais mon travail, si c'est pas mon père et c'est pas ma mère. C'est pourquoi j'insiste et je dis, nous devons éviter de prendre des mesures dans l'abstrait.
Alors,
les mesures à prendre doivent être soutenues par des recherches.
Voilà, les mesures à prendre doivent être soutenues par des recherches au préalable. Un autre auditeur en ligne, Confiance Kabongo, il est à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour, notre invité.
On vous écoute.
Toujours dans ces mesures qu'il faudrait prendre, je voulais dire que l'invité propose aussi certaines mesures au gouvernement. Puis, ces mesures-là doivent être dans leur champ d'action, je voudrais bien dire dans leur programme d'action. Parce qu'en principe, le mal, il faudrait le combattre par la racine. Il faudrait le combattre par la racine de ce mal-là, c'est d'abord la pauvreté des parents, et qui font en sorte qu'ils démissionnent de leurs obligations pour laisser les enfants. Et il faudrait aussi, en principe, pénaliser. C'est-à-dire, quand on voit un enfant qui n'est pas à l'âge de travailler dans les mines, par exemple, qu'on suive la fumée et qu'on condamne le parent, c'est en commençant par condamner le parent, en les sanctionnant, en les punissant, que peut-être tout peut trouver une solution.
Merci, Confiance. Norbert Lopiti.
Oui, merci. Je partage le point de vue de mon ami. Certainement, le gouvernement, en tant qu'acteur principal organisateur de la vie en société, a la grosse part de responsabilité dans ça. Lorsque j'ai commencé à exploiter la première piste causale, celle relative aux conditions socio-économiques, mais qui doit refaire ces conditions? Mais c'est l'État. Et je vous ai montré que la plupart des enfants qui s'abonnent à ce genre de travaux proviennent, si vous voulez, de ces familles que certains auteurs considèrent comme des familles à parentalité dysfonctionnelle. Donc, des familles qui ont des problèmes. C'est le gouvernement de donner de la force aux familles.
Oui. Alors,
la manière de rendre les familles fortes,
oui,
c'est de donner du travail aux gens, et de rémunérer les gens. Et ça, on ne peut pas c'est masquer le visage, ça doit se dire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça, nous sommes, ce sont les mesures que je peux qualifier de macro-sociologique. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut encore saisir d'autres niveaux pour le fonctionnement des structures censées encadrer les enfants. Là aussi, il y a à améliorer. Et même au niveau micro-sociologique des parents, on doit rappeler aux parents leurs responsabilités. C'est pourquoi, quand j'introduisais mon propos, j'ai dit que ce phénomène est très complexe.
Mmh.
Il faut l'envisager dans toute sa complexité. Et la meilleure manière de s'y prendre, c'est de commencer par financer des études qui mettraient à nous, les tenants et les aboutissants de ce phénomène.
Travail des enfants, comment y mettre fin? Norbert Lopiti, spécialiste de l'enfance marginalisée, intervient depuis le Bumbashi. Vous avez des questions de préoccupation, composez le 081-890-63-94.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capitule propose la cuisine de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La cuisine de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapitule.net.
Travail des enfants, comment y mettre fin? Victor Ingopa, vous êtes à Kananga, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, quelle est votre préoccupation, Victor?
Oui, quand vous voulez m'avoir pris la parole, j'avais une petite question que j'avais voulu vous présenter.
Oui.
Vous interdit aux enfants de métier travailler ou soit de métier sur les travaux qui vont des mines et consommer. J'ai déjà un auditeur qui veut dire que ce pays, nous avons un problème de clair. Et
Victor, Victor, désolé, on ne peut pas, on vous entend pas très très bien. Il y a un problème au niveau de la liaison téléphonique. On va peut-être essayer peut-être de nous rappeler plus tard parce que là, ça marche pas. Jean Dédieu Yunga, vous êtes à Lumbashi, bonjour. Jean des Dieux, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre poste récepteur. Vous allez suivre à partir de votre téléphone, Jean des Dieux, pour éviter le retour à l'antenne. On vous écoute.
Oui, je pense que le problème, oui, il faut le voir dans sa globalité, c'est-à-dire, par exemple, ici chez nous au Katanga, le phénomène enfant d'Ademine a été beaucoup plus occasionné par l'esprit de chercher à développer une classe moyenne katangaise. Mais malheureusement, au lieu de développer cette classe moyenne katangaise, on a vu que c'est une poignée de gens qui se sont enrichis au détriment même de ces acteurs. Alors nous pensons que la belle initiative, c'est de transformer toutes les coopératives minières qui n'ont pas aidé la population en la transformant en des coopératives agro-pastorales. Et de c'est par rapport aux parents, tellement que la pauvreté est très élevée, il faut qu'on crée des emplois, parce que vous avez des parents qui sont sans emploi, et alors comment les enfants vont vivre? C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Parce que si on fait le bilan, depuis qu'on a commencé avec l'exploitation artisanale, je n'ai vu aucun creuseur qui achetait même pas un vélo. Donc il faut transformer toutes ces coopératives minières en des coopératives agro-pastorales.
Mmh. Merci Jean des Dieux. Norbert, vous avez suivi la proposition de Jean des Dieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, je remercie l'intervenant. Je pense que sa vision rejoint la mienne sur une bonne partie. Moi, j'ai appelé ça des mesures palliatives. Lorsque j'ai parlé de l'irréalisme des politiques et des mesures arrêtées au niveau des instances officielles, je soutenais justement, comme vient de le dire mon frère, qu'il n'y a pas de mesure de substitution. Il est bon de dire, enfin, quittez dans les sites miniers, arrêtez de faire ce que vous faites, mais qu'est-ce qu'ils feront à la place? Alors, si l'éditeur propose des coopératives agro-pastorales, moi je ne peux qu'accueillir ça avec joie, hein, donc c'est toute politique à essayer. Je suis d'accord avec lui.
Voilà, c'est une politique à essayer. Le travail des enfants, comment ils mettent fin? Vous avez dit, Norbert, premièrement, il faut des études, il faut mener des études pour mesurer l'ampleur de la situation et puis voir quels sont les remèdes à appliquer. Mais vous avez dit, premièrement, il faut que l'État puisse améliorer la situation sociale des parents, des familles. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, il y a un auditeur confiance qui vous a dit, qui a posé la question de savoir, faut-il sanctionner également les parents? Lui pense qu'il faut sanctionner également les parents et qui laissent les enfants à les vendre ou s'adonner à des petits métiers.
Bon, je le résume en disant qu'il faut toujours faire la part des choses. J'ai insisté en rappelant que le profil de ces enfants n'est pas le même. Alors, si on examine cas par cas de chaque enfant, il est possible qu'on arrive dans des situations où ce sont les parents qui ont poussé les enfants, bien qu'ayant des conditions de vie on ne peut plus supportables, ils ont poussé les enfants à aller dans les situations. Là, certainement, on peut procéder à des mesures répressives. De toutes les façons, je me répète toujours en disant qu'il faut une vision beaucoup plus globale. En pareille circonstance, on ne peut épargner aucune forme de mesure, mais vous allez voir qu'il y a des mesures prioritaires. Ce qu'il faut éviter, c'est de privilégier des mesures qui s'attaquent aux symptômes. Vous allez voir que les bonnes mesures, les mesures efficaces, ce sont les mesures qui attaquent le phénomène à ses origines. Aussi longtemps que les familles congolaises resteront fragiles, certainement vous allez bien arrêter les enfants, vous allez bien arrêter les parents, vous ne trouverez pas de solution.
Norbert Lupiti, spécialiste de l'enfance marginalisée, intervenant depuis Lubumbashi dans la province du Katanga, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur.
Au Capi.